Mes chers amis, j'aimerais vous accueillir pour ce moment ensemble. Pas toujours évident de vous accueillir dans ce grand bâtiment sans que vous ne soyez là. Ça fait tellement vide, tellement bizarre. Je suis tellement heureux de se revoir. Mais le moment qu'on veut partager ensemble n'est pas un moment de conférence, d'étude. Il y a beaucoup plus. Qui doit se passer. Il y a vraiment une communion spirituelle. Je sais que le Seigneur est ici, mais c'est la capacité d'être chez vous, chez toi. Et c'est un rendez-vous avec lui. C'est un rendez-vous avec lui. Un moment où, on le dit souvent le dimanche, où on s'attend, on doit s'attendre à beaucoup. Attends-toi à beaucoup dans ce moment où, en Église, on est ensemble. J'aimerais vraiment nous accueillir en nous rappelant que l'invitation que Jésus nous adresse, la vie avec Jésus, ce que nous vivons au quotidien, dans parfois la banalité du quotidien, dans le confinement du quotidien, c'est tellement plus que ce que nous imaginons. Jésus ne nous propose pas seulement, en ce dimanche matin, de laver l'ardoise. Jésus n'est pas simplement là pour pardonner nos péchés, et il l'a fait, bien sûr, à la croix. Mais l'offre de Jésus est tellement plus importante, plus globale. C'est la vie qu'il nous propose. Alors, là où tu es, chez toi, j'aimerais vraiment te souhaiter et prier pour que chacun d'entre nous, nous puissions nous ouvrir à toute la vie de Jésus. Ce matin, comme chaque matin, peut-être demain, les états d'âme, et souvent on parle de cela avec Laurence dans la journée, les états d'âme peuvent tellement fluctuer. Mais Jésus nous rejoint. Et son offre, c'est la paix, c'est la joie, c'est l'amour, c'est une vie d'abondance. Où que nous soyons, quoi que nous fassions, quelles que soient les circonstances, dans la barque, dans la tempête, Paul disait, j'ai appris à vivre dans l'abondance, dans la disette. J'ai appris à vivre dans le confinement, dans la paix, dans la joie du Christ. Alors, vraiment, j'aimerais vous accueillir. Normalement, les musiciens, à cette heure-ci, seraient déjà en train de jouer. Mais même s'ils ne sont pas là, l'offre de Jésus, cette offre d'abondance. Jésus disait à la Samaritaine, si tu savais qui te parle, si tu savais quel est le cadeau de Dieu. Et ce cadeau, il est pour nous, parce que Jésus est avec nous. Cette offre, elle est globale, elle est constante. Et j'ai même envie de dire, elle va en crescendo jusqu'au moment où nous serons avec lui dans la gloire. On en parlera la semaine prochaine, lors du culte de Pâques. Vraiment que, en ce début de journée, la paix de Jésus, qui surpasse toute intelligence, toute circonstance, soit avec toi. Oh Seigneur, donne cela à notre communauté. Donne cela à tes enfants, donne cela à notre pays. Une paix tellement profonde, une joie. Même si nous sommes privés de nos bien-aimés, une joie profonde parce que Jésus est là. Jésus disait, vous êtes tristes maintenant, aux apôtres avant son arrestation. Mais vous me reverrez. Et vous serez dans la joie. Et personne ne va vous ôter cette joie. C'est notre caméra. Que son amour aussi soit tellement palpable à nos cœurs. Que personne ne se sente isolé, en manque, en panne d'amour. Parce que Jésus est là avec nous. Il est le même aujourd'hui et pour l'éternité. On connaît ces textes. Il nous faut maintenant les intégrer. Alors soyez les bienvenus pour cet enregistrement. Pour ce message que j'aimerais partager avec vous. Il y a un épisode de la vie de Jean Calvin qui m'a toujours étonné. Il était avec son ami Guillaume Farel banni de Genève en 1538 jusqu'à 1541. Et Calvin avait l'habitude, notamment lors de la prédication dominicale, d'aborder les textes, on appelait ça la prédication textuelle, paragraphe par paragraphe, les commenter. Et il était à ce moment-là, en 1538, en train d'étudier l'épître aux Corinthiens, aux Genevois. Et il est banni, il revient en 1541, premier dimanche où il est là, il dit, nous allons reprendre maintenant notre lecture, notre étude de l'épître aux Corinthiens. Malgré les 3 ans, il a repris les fondamentaux. Alors, j'aimerais que nous restions sur le cap 25, et pour ceux qui nous rejoignent, j'aimerais vous expliquer dans l'introduction ce que ça signifie. Mais j'aimerais que nous restions sur les fondamentaux, sur cette maturation que nous voulons installer dans nos cœurs et dans nos vies. L'actualité nous montre que tellement d'actes de bravoure autour de nous, tellement de dévouement, de don de soi autour de nous. Et merci en tout cas à tous ceux et celles qui se donnent corps et âme. Merci aux médecins de la communauté, les infirmiers, les infirmières, puis tous ceux qui servent discrètement leur prochain. Un tout grand merci à chacun. On vit dans une société qui a tellement de besoins autour de nous. Tout en étant reconnaissant pour tout ce qui se fait au niveau humain, j'aimerais que nous ne nous laissions pas leurrer, nous ne nous laissions pas tromper sur le grand besoin de l'homme, le grand besoin de notre société. Bien sûr, on doit vaincre ce virus. Bien sûr, il faut qu'on veille à ce que chacun ait suffisamment de confort, de nourriture. Très certainement. Donnons-nous, aimons, servons. N'oublions pas que le plus grand besoin dont l'homme souffre, dont nos voisins ont besoin, nos familles, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Le besoin de l'homme, c'est de rencontrer Jésus-Christ à travers, très souvent, les vrais disciples de Jésus-Christ. Quelqu'un avait eu cette belle formule. L'Église, pas en tant que bâtiment, pas en tant qu'institution, mais en tant que corps formé de disciples de Jésus-Christ est le seul espoir du monde. Seul porteur de la bonne nouvelle qui nous réconcilie avec Dieu et qui nous offre, comme je le disais en introduction, une qualité de vie, une offre de vie incroyable que personne d'autre ne peut offrir. Église, le seul espoir du monde. Ne perdons pas de vue que, comme Jésus disait à la Samaritaine, si tu savais qui j'étais, si tu savais quel est le cadeau de Dieu, c'est toi qui lui aurais demandé de l'eau, et moi je t'aurais donné une eau vive. Ne perdons pas de vue que ce dont nos proches ont besoin, c'est de Jésus-Christ. Alors, j'entends déjà peut-être les détracteurs, les pessimistes qui diront, ouais, mais tu as vu l'état de l'Église. Qu'est-ce que nous pourrions vraiment offrir? Alors, c'est vrai, je sais. Je sais qu'il y a du pain sur la planche, qu'il y a des murailles à reconstruire, qu'il y a tellement de défis pour que l'Église redevienne pleinement l'Église. Ce qui me rassure, c'est que quand je lis le Nouveau Testament, je vois que le combat des apôtres était le même que le nôtre. L'apôtre Paul reste 2 ans à Corinthe et il souffre le fait qu'ils sont encore tellement enfants, tellement charnels. Il souffre de voir les chrétiens de Galatie peut-être risquer de se détourner. Il dit, mais je souffre les douleurs de l'enfantement jusqu'au moment où le Christ soit formé. C'était leur combat et c'est le nôtre aussi. Pour que l'Église, n'oublions pas tout ce qui se fait déjà. L'Église, c'est l'espoir du monde. Bien sûr, il y a des défis. Mais nous devons continuer. Nous devons vraiment continuer. C'était leur combat et c'est notre combat. Comment y parvenir? Comment est-ce que, en tant qu'Église, en tant que disciples de Jésus-Christ, pouvons-nous parvenir à être une aide réelle pour le monde, pour ceux qui nous entourent? Vous savez, la vie de disciple, la vie à la suite de Jésus, il y a en fait deux grandes composantes. On en a déjà parlé et j'aimerais reprendre cette idée. Pierre, à la fin de sa vie, écrit la seconde lettre, il dit, bon, je vous répète des choses et je prendrai soin qu'après mon départ, on puisse continuez à vous les rappeler. Alors même si pour certains c'est de l'ordre du rappel, je crois que c'est important que ces choses, non seulement nous les connaissions, mais nous puissions aussi les intégrer. La vie chrétienne, elle repose sur deux ingrédients importants. La part de Dieu. la part de Dieu. Ne croyons pas que la vie chrétienne, nous la créons. C'est Dieu qui l'implante en nous, à la conversion. Pas juste qu'on adhère à une philosophie, à des dogmes. C'est le Christ qui vient vivre vraiment en nous. Nous ne produisons pas la vie de Dieu. Nous la recevons, la part de Dieu. Et Dieu sera toujours fidèle. Plus je lis l'Écriture, plus je me rends compte que le sujet majeur de louange, par exemple dans le livre des Psaumes, c'est la fidélité de Dieu. Dieu est un Dieu tellement fidèle, totalement fidèle, malgré nos infidélités. Même s'il y a parfois des coups d'accélérateur dans l'action de Dieu, c'est pour ça qu'on prie pour ce qu'on appelle les réveils, des mouvements forts où nous sommes impactés par la vie de Dieu. Dieu sera fidèle. Dieu sera fidèle dans son engagement. Mais la deuxième composante, c'est la part de l'homme. La vie du disciple, elle nous engage, chacun individuellement. Oui, il y a des choses à faire. Nous ne créons pas la vie de Dieu, mais nous l'entretenons. Nous avons vraiment des choses à accomplir. Ce qui veut dire que nous devons nous concentrer sur nos responsabilités. Dieu assumera toujours, tant et plus, sa part, ses responsabilités. Mais en tant que disciples de Jésus-Christ, nous avons vraiment à nous centrer sur nos responsabilités. Je crois qu'en tant qu'Église, en tant que disciples, on est exposé souvent à deux grands dangers. Hein, j'en ai déjà parlé, mais je le rappelle. L'Église peut parfois tellement butiner, un peu comme une abeille qui passe d'une fleur à l'autre. On fait un peu de ceci, on fait un peu de cela, un peu ce qui passe dans l'air du temps. Et on n'avance pas dans grand-chose parce qu'on fait un peu de tout, et parfois n'importe quoi, et on ne va pas au fond des choses. Et puis le deuxième danger, c'est de se spécialiser. Une église qui serait uniquement spécialisée dans, par exemple, la louange, uniquement spécialisée dans l'évangélisation. Or, nous nous rendons compte que nos responsabilités, elles sont vraiment multiples. Elles sont multiples. Devenir un disciple accompli, mature, être réellement l'espoir du monde, ce n'est pas seulement que bien loué. Et combien c'est essentiel. Jésus, dans ce texte de Jean 4, disait « Dieu cherche des adorateurs ». On doit grandir, très certainement. Mais devenir mature, ça recouvre un ensemble de choses. Un ensemble de connaissances, oui, certainement. Il y a des choses que je dois connaître. Il y a des savoir-faire, des savoir-être. Jésus disait, un disciple bien formé sera comme son maître. Donc, on est vraiment attentif au fait que devenir une église mature, cela nécessite toute une série de compétences. Et avec l'équipe pastorale, on s'est penché sur cette question. Et on a pu repérer au moins une douzaine de compétences tellement importantes qui, lorsqu'elles sont réunies, vont faire que l'Église, chaque chrétien, est vraiment mature, vraiment compétent. Un petit peu comme si l'Église, le chrétien, était comme un diamant aux multiples facettes. On pourrait dire au moins une douzaine. Il n'y en a pas une qui est plus importante que l'autre. Si nous voulons être l'espoir du monde, si nous voulons remplir la fonction que le Seigneur veut nous voir accomplir en tant que disciples, il faut vraiment que sur tous ces fronts, toutes ces compétences, nous puissions grandir. Le Seigneur nous a vraiment interpellés, et c'est pour ça qu'on a appelé ce projet le Cap 25. L'idée, au début de fin 2019-2020, le Seigneur m'interpellait vraiment sur la question du temps. Dieu travaille avec nous dans le temps. Et nous ne pouvons pas passer notre temps juste à butiner, à passer d'un séminaire à l'autre. Il faut vraiment travailler avec le temps. Si nous ne nous mettons pas en route, si nous ne prenons pas la maturité en main en nous disant « mais nous voulons nous donner les moyens pour, dans ces 12 domaines de compétences, de grandir en 2025, puisqu'il nous sera donné, Dieu voulant, de connaître le quart du siècle, nous serons toujours les mêmes. » Donc, avec l'Église, on s'est fixé un cap de devenir une Église très intentionnelle. Avoir l'intention de mûrir, de grandir, de devenir mature, c'est notre appel. Pour l'instant, On n'a pas l'occasion de voir notre petit-fils, on le voit juste par vidéo. Et en quelques semaines, il va avoir bientôt 1 an, c'est beau de voir combien il grandit, il mûrit. Les choses s'installent dans sa vie, il commence à se lever, il va bientôt marcher. Et nous devons être vraiment comme ça. Donc, on ne peut pas rester les mêmes. Il faut qu'en 2025, l'impact, et bien sûr déjà dans les années qui sont devant nous, mais nous ne pouvons pas rester les mêmes. Il faut que l'Église devienne tellement compétente. Alors, pour revenir là où on en était quand on ne s'est plus vu, on est dans notre quatrième compétence qu'on va revoir comme ça chaque année dans ce cycle. On a vu que quand le Christ vient en nous, la première capacité qu'il développe en nous, c'est la capacité relationnelle. Il nous donne de grandes compétences relationnelles. Réécoutez ça sur le site, je résume juste en quelques mots. Chose inouïe. Le chrétien, le disciple de Jésus-Christ, a cette capacité de communiquer avec le Dieu de l'univers, le maître de l'univers, le Dieu des galaxies, le Dieu de l'invisible, le Dieu qui est présent. Je ne suis pas perdu dans l'univers, je ne suis pas simplement confiné chez moi. J'ai accès à la présence de Dieu. Si tu regardes bien le Nouveau Testament, la conséquence majeure de l'œuvre de Jésus, ce qui revient pratiquement dans chaque épître, c'est la liberté d'un chemin nouveau dans la communion avec Dieu. Nous pouvons nous approcher de Dieu. On a une telle compétence, une telle capacité. On n'est pas simplement en train de se parler les uns aux autres. Nous sommes reçus chez le maître de l'univers, chez notre Père, chez notre époux. On est les bienvenus. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, on peut le faire avec assurance, avec détermination. Le chemin est... Donc, je dois grandir, je dois mûrir, je dois devenir un expert. Il y a tellement de séries experts un peu partout sur la planète. L'Église doit être un endroit rempli d'experts en relation avec Dieu. Où est-ce que nous en sommes? Où est-ce que nous en sommes? Combien de temps est-ce que je passe en tête à tête avec Dieu, pour que toute ma journée ensuite se déroule dans sa présence. J'aimerais vraiment nous inviter à ne pas tout le temps être connecté, à ne pas avoir tout le temps des notifications qui vont distraire notre esprit. Notre première responsabilité, c'est la relation avec Dieu. Je l'avais dit déjà à l'Église. J'avais été tellement piqué par cette réflexion de quelqu'un qui me disait, mais le monde, dans tellement de domaines, développe un côté tellement professionnel, tellement compétent, et l'Église reste tellement amateur, tellement amateur. Ça, c'est interpellant quand même. Alors que, comme dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, nous devrions être des maîtres, des enseignants, des hommes et des femmes accomplis, matures. Si souvent l'Église est marquée par l'amateurisme, notre première compétence, c'est la relation avec Dieu. Investissons du temps, investissons du temps dans la relation. Relation avec soi-même, réécoutez, on y reviendra. J'ai besoin aussi que la relation avec moi-même soit bonne. Et relations avec les autres. Beaucoup de compétences nous sont données. Deuxième point de compétence, le Christ vient en nous et on a dit que c'était les compétences changementielles. C'est-à-dire que il vient en nous non pas comme une roue de secours, mais comme un nouveau moteur. Il vient apporter des changements importants. Et c'est souvent là que nous résistons. Il vient amener le royaume de Dieu. La vie d'en haut. La vie d'en haut. Il y a donc vraiment tout un programme de transformation, des changements de valeur. On a dit que le plus important, c'est qu'il amène les choses éternelles en nous. Et donc les choses temporel, temporaire, juste d'ici-bas. Les choses d'en bas vont perdre leur emprise et les choses éternelles vont s'installer. Donc il y a là toute une compétence nouvelle. On nous avait tellement appris, Pierre dit, qu'il nous faut changer la vaine manière de vivre héritée de nos pères. Une vie déraisonnable qui nous faisait croire que seules les choses d'en bas comptaient, seule ma carrière d'en bas comptait, seule ma notoriété, mes biens. Et Jésus vient en disant, mais non, ce sont les choses éternelles qui comptent. Paul avait cette audace de dire, mais les choses d'en bas, les choses invisibles, les choses visibles passent, les choses éternelles, les choses invisibles demeurent. Donc on doit développer cette capacité, ces changements de valeur. Je ne vis pas simplement pour mon aujourd'hui. Je ne peux pas accepter la philosophie du monde qui dit mangeons, buvons. C'est pour ça que les gens ont rempli leur caddie. Mangeons, buvons, prenons du papier toilette, parce que demain nous mourrons. Faux. Nous allons vivre pour l'éternité. Et tout ce que nous aurons fait d'éternel va nous suivre dans le royaume. Deuxième compétence. Troisième compétence qu'on a développée ensemble. Bon, je prends le temps de les rappeler, de toute façon, on est chez nous. Compétence, je l'appelais exponentielle, avec le C de ciel. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est que lorsque le Christ vient en nous, il nous donne la capacité de grandir de manière exponentielle. C'est vraiment possible. Et on voit cette réalité aussi dans les paroles de Jésus, dans les épîtres. À celui qui peut vous garder de toute chute, qui peut vous rendre vraiment semblable à Jésus. Il installe en nous, on a parlé des disciplines spirituelles, une hygiène de vie, un style de vie qui peut nous rendre capables d'une grande croissance. Et nous ne nous étonnons pas de voir des jeunes dans la foi, ce n'est pas une question d'âge, des nouveaux chrétiens qui, parce qu'ils installent les fondamentaux de la vie chrétienne, temps de relation avec Dieu, lecture de la parole, temps de solitude, jeûne, prière, vie de communauté, adoration, évangélisation, plein de choses comme ça. Les disciplines, on a appelé comme ça dans l'histoire de l'Église, les disciplines, les bienfaits, les moyens de grâce qui nous sont donnés. Cela va nous faire vraiment grandir. L'invitation était donc faite à privilégier ce style de vie. Être chrétien, ce n'est pas juste changer notre dimanche matin. On se rend compte que, en bougeant un peu le dimanche matin dans la boulangerie, on voit que nos concitoyens ont beaucoup d'habitudes de dimanche matin, faire du vélo, laver leur voiture. Le chrétien, ce n'est pas juste celui qui a une autre habitude le dimanche matin, lui, il va à l'église. Il y a tout un style de vie qui vient nous impacter. Et dans la mesure où je laisse ces choses imprégner ma personnalité, il y a une croissance vraiment exponentielle. Et nous devons devenir matures. Bien sûr, il y a la progression. Jean est tellement sensible à ça, dans sa première épître, il dit « Je vous écris, petit enfant, je vous écris, jeunes gens, je vous écris, père et mère, parce qu'il y a une progression. » L'occasion nous est vraiment donnée pour le moment de mettre les bouchées doubles pour grandir très très rapidement. Nous n'étonnons pas de voir des nouveaux chrétiens parce qu'ils vont installer ça dans leur vie, grandir très très vite. Et parfois de voir qu'une partie de l'Église, c'est parfois des personnes qui sont chrétiens depuis si longtemps, parce qu'ils n'ont pas installé cette hygiène de vie, ne grandissent pas. Et ça c'est terrible, c'est terrible. Et puis notre quatrième compétence, et on en est là maintenant, la compétence on l'appelait identitaire. Quand Jésus vient en nous, quand le royaume de Dieu s'est approché de nous, c'était quand même le cœur de la prédication de Jésus, changez, parce que le royaume de Dieu s'est approché de vous. C'est quand même incroyable de se dire, la présence de Dieu, ce Dieu suprêmement intelligent, parfait, extraordinaire, s'est approché de nous. Plus que cela, la Bible dit qu'il vient vivre en nous, il vient changer notre identité. Donc, on a aussi besoin de développer une grande compétence identitaire, non pas pour devenir des gens vaniteux, orgueilleux. Jésus n'était pas comme ça. On s'approchait de Jésus parce qu'il avait une personnalité, une identité tellement incroyable, tellement belle. Frappant de voir dans un texte comme Jean 13 où la troupe qui vient arrêter Jésus est déjà presque en route, on peut l'entendre, il est là en train de manger avec les apôtres, il va laver les pieds. Il y a ce petit verset très très étonnant qui nous dit « Jésus, sachant l'heure qu'il était, il veut les aimer à l'extrême, sachant d'où il venait et où il allait. » C'est étonnant de dire « Bon voilà, c'est pas vraiment important à ce moment-là, explique-nous ce qui va se passer avec le lavement des pieds. » Mais je trouve ça vraiment tellement important parce que cela nous rappelle l'identité, la certitude de l'identité que Jésus avait. Il savait d'où il venait. Il savait où il allait. Il savait qui il était pour le Père, ce qu'il était en lui-même et pour le Père. Nous avons aussi besoin de grandir dans notre identité. C'est pourquoi, donc, j'aimerais ce matin rappeler certaines choses et dans les semaines qui viennent, aller un peu plus loin. Quatrième compétence, notre potentiel identitaire. Notre potentiel identitaire. On a besoin de savoir d'où nous venons, qui nous sommes, ce que Jésus a fait pour nous, ce que Jésus a fait de nous et où nous allons. Où nous allons. J'aimerais lire avec vous pour commencer ce moment de réflexion sur l'identité, lire avec vous un texte dans l'évangile de Jean au chapitre 15. Et nous allons lire les 12 premiers versets. Alors je vous laisse prendre le texte, votre smartphone ou votre Bible. Et pendant que vous prenez votre Bible, j'aimerais vraiment vous encourager à prendre beaucoup de temps dans la parole. Tous les jours. Je sais que je le répète souvent. Ce n'est pas encore un signe de sénilité. Mais le Seigneur attire tellement mon attention sur ce domaine. Nous avons besoin d'être des hommes et des femmes de la parole. Le psaume 1 s'ouvre en disant « Heureux l'homme qui ne fait pas ceci, mais qui trouve son plaisir dans la parole du Seigneur, dans la loi de l'Éternel, qui trouve son, et qui la médite jour et nuit. » Nous sommes appelés à trouver du plaisir. Alors, super d'écouter des capsules vidéo, des messages, mais je crois que mon premier point de nutrition, le premier espace où je prends le plus de temps, c'est dans la parole. Dans la parole. Un des objectifs importants et puissants, nutritifs, caloriques, dans la lecture, la méditation, l'intégration de la parole. Alors, on lit Jean 15 pour introduire cette réflexion sur l'identité. C'est Jésus, on est vraiment, la troupe qui va l'arrêter arrive, mais il veut encore leur dire des choses tellement importantes. D'ailleurs, les disciples diront, « Ah, maintenant tu ne parles plus avec des paraboles, on comprend bien. » Jean 13, 14, 15, 16, 17, c'est des grands sommets de la révélation. Et Jésus dit ceci, « C'est moi qui suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. C'est pourquoi demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même sans rester attaché au cep. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne reste pas attaché au cep. Il en va de même pour vous, si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, Vous demanderez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi, dit Jésus, je vous ai aimé. Sache-le, là où tu es. Le Père m'a aimé. Le Père vous aime. Et moi, je vous aime. C'est pourquoi demeurez dans mon amour. Demeurez dans mon amour. Demeurez dans mon amour. Soyez fondés dans son amour. Soyez fondés dans son amour. J'écoutais un beau message sur l'amour de Dieu à partir de l'évangile de Jean. À partir de cette expression, le disciple que Jésus aimait. Plein de bonnes choses. L'auteur, le prédicateur, a juste oublié de dire ceci, ça me paraît fondamental. Dans la littérature de l'Antiquité, on utilisait cette expression-là, quand on ne se nommait pas, mais on disait « celui qui », le disciple que Jésus aimait, c'était pour que le lecteur s'identifie. Que tu deviennes Jean. Que tu comprennes que tu es le disciple que Jésus aimait. C'est pourquoi Jésus nous dit « demeure, demeure dans mon amour ». Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela, afin que ma joie demeure en vous, et que votre joie soit complète. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Jésus dit, je suis le cep, et vous êtes les sarments. On a déjà abordé ce texte plusieurs fois dans la communauté, mais j'aimerais nous rendre tellement conscients des implications incroyables, incroyables. Plus je médite ce texte, plus je me dis, mais c'est incroyable, les implications phénoménales de cette petite et simple image du cep et du sarment. Elle souligne, pied de vigne et le sarment, très simplement, la merveille de notre union, de notre symbiose, de notre union organique, spirituelle, notre communion avec Jésus. Bien sûr, Jésus enseigne le fonctionnement de la vie chrétienne, comment ça va fonctionner après son départ. Mais je crois que ce texte nous dit tellement aussi sur notre identité, le cep et les sarments. Il y a une seule entité, une union vitale, intime. Il n'y a plus de distance. Il n'y a plus de distance entre le cep et les sarments. Ils forment un. La vie de Jésus, la sève de Jésus, toute sa vie, cette vie de l'Esprit, elle est nôtre, et c'est ça qui façonne notre identité. Il répand sa vie en nous. Et cette petite illustration, alors que les disciples sont affligés, attristés, mais quelle merveille, quel privilège de savoir leur position et notre position. Voilà quelle est la nature de la vie du disciple. Voilà ce qui marque notre identité. On n'est pas d'abord quelqu'un, des personnes... Bien sûr, nous croyons certaines vérités, bien sûr, on a un style de vie, mais c'est beaucoup plus que ça, la vie de Jésus. C'est pessarment, une union, la même vie. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de fécondité en dehors de Jésus. Livré à nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Il le dit, on serait comme des rameaux desséchés. Mais quand tu viens à Jésus, cette vie est en toi et elle te donne de l'identité, elle donne du fruit. Quel coup porter à la fierté de nos efforts? Comme si nous étions capables par notre propre intelligence, notre propre énergie de concevoir des choses qui vont durer éternellement. Jésus dit non, on peut faire des choses. Mais celles qui sont mentionnées ici, les fruits qui vont glorifier le Père, qui vont demeurer pour l'éternité, c'est celle qui découle de cette symbiose, de cette intimité, de cette vie. Notre rôle est de demeurer attaché à lui. C'est ça qui donne mon identité, c'est ça qui donne du sens à ma vie, où que je sois, quand sa vie coule en moi. Ce que je vais m'efforcer de partager tout au long de ce chapitre est tout compte fait assez simple. Et je reprends la chose que j'ai dite en introduction dans d'autres messages sur le sujet. Cette question de notre union à Jésus, de notre être en lui, Le fait, Paul va utiliser plus de 70 fois cette expression, nous sommes en lui, notre union à Jésus, c'est pas juste un à côté, une petite entrée, on pourrait dire, une petite soupe avant des choses, hein, le plat de résistance, plat de consistance plus important, c'est pas juste une petite porte qu'on ouvre pour aller dans des pièces nettement plus importantes, c'est pas vrai ça. Notre identité, notre union avec Jésus-Christ, c'est le plat de consistance. C'est la pièce principale de la vie chrétienne. C'est le steak, c'est le salon de la vie chrétienne. Et pourtant, si souvent, les chrétiens fouillent autre part. Cherchons à donner du sens à notre identité tellement autre part. Si souvent, on peut constater que le poids de notre temps, là où nous investissons le plus de temps, nous porte à croire que notre identité dépend de ce que nous accomplissons. Et donc, dans une période comme celle-ci, où peut-être tu es privé de faire les choses habituelles que tu accomplissais, tu es en souffrance d'identité parce que tu t'identifies à ce que tu faisais. Je suis ce que je fais. Et quand on tombe dans ce piège, on en arrive à oublier que ce que je suis avant tout, c'est un enfant de Dieu. Les gens disent, mais nous le sommes. Nous avons été adoptés. Et trop souvent, on dépend de nos activités, de nos échecs, de la réussite populaire ou impopulaire pour nous donner de l'identité. Mais quand je le fais, quand je tombe dans ce piège, je suis aussi fragile qu'un ballon de baudruche. C'est ma réussite, ma popularité qui me dit qui je suis. Quand c'est le cas, alors, mon ego enfle, et quand c'est pas le cas, j'implose. Cela ne se produirait pas si je me considérais vraiment comme un enfant de Dieu. Et ce n'est pas juste une question d'équilibre mental. Lorsque le chrétien se définit autrement qu'en Jésus-Christ, j'ai envie de dire, c'est comme si je polluais l'air. Quand mon identité dépend de ma réussite, je peux devenir si souvent vaniteux, orgueilleux, et quand mon identité est impactée par l'échec, le fait de devenir impopulaire, je peux si souvent devenir amer et apathique. Notre union à Jésus-Christ doit opérer vraiment un travail en profondeur dans notre cœur. J'allais dire un labourage en profondeur, au plus profond de nous-mêmes. Alors, c'est clair que quand nous sommes venus à Jésus, automatiquement, immédiatement, nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Mais pour que cette vérité soit vraiment ressentie, installée, intégrée au plus profond de nous-mêmes, ça nécessite vraiment un profond travail. C'est une compétence qu'il nous faut acquérir. Il faut que je sorte de la vaine manière de vivre héritée de mes pères, qui me disait que si le bulletin est bien, tu es quelqu'un. Si ta voiture est bien, tu es quelqu'un. Si tu atteins tel sommet intellectuel, tu es quelqu'un. Paul n'avait pas peur de dire aux Corinthiens, il y a parmi vous très peu de sages, très peu d'intelligents, mais en Jésus-Christ, il est votre sagesse, il est votre justice, il est votre gloire, vous êtes vraiment enfant de Dieu. On a besoin de développer cette vitalité, et ça prend du temps. Et ça prend du temps. On a pris tellement d'habitudes. On a été comme programmés. Je vois parfois des adultes, des hommes, des femmes, 50 ans, 60 ans, qui restent encore tellement tributaires de paroles prononcées par le père, par leur père, par leur mère, qui peuvent s'effondrer en se souvenant que le père avait touché l'identité. Oh, combien on a besoin de réaliser qu'en étant greffé sur le cep de vigne, nous sommes vraiment devenus enfants de Dieu. Et Paul va même plus loin. Il dit, maintenant nous ne connaissons plus personne selon la chair. Il n'y a plus ni homme, ni femme, ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre. pas évident de vivre tout ça dans l'église locale. Parce que nous sommes tous devenus enfants de Dieu en Jésus-Christ, glorifiés, en route vers la gloire céleste. Dans l'intérêt de notre santé, de notre joie, de notre communion les uns avec les autres, j'entendais qu'en France, 35% des couples sont en train de chavirer. Parce qu'ils sont confinés, parce qu'ils n'arrivent plus à vivre ensemble. Problème d'identité. Pour notre santé mentale, pour notre joie, pour notre communion avec les autres. On doit vraiment lutter contre cette idée qui nous ferait quoi ? Croire que nous avons une identité plus importante, des aptitudes plus importantes en dehors de Jésus. C'est faux. Il est le sommet de notre vie. C'est son regard. Peut-être tu as connu des regards qui t'ont tué, des paroles qui t'ont tellement blessé. Quand tu t'en souviens, tu te sens encore tellement touché, tellement blessé. Toi, le disciple que Jésus aimait, toi, le disciple que Jésus aime, toi qui peux s'appuyer sur la poitrine de Jésus, c'est pour ça que j'en dis cela. Ne crois pas qu'il y a un meilleur statut, une meilleure identité, une meilleure reconnaissance liée au compte bancaire, au diplôme, à la réussite matérielle, que ça c'est plus important, plus grand que le statut que nous avons avec en Jésus-Christ, son regard, ce qu'il dit de toi. C'est unique, c'est définitif, c'est immérité, c'est inconditionnel. Et c'est ça dont nos proches ont besoin. L'Église est le seul espoir. Tu es le seul espoir pour beaucoup de personnes autour de toi, dans ta sphère d'influence. Parce qu'à travers ton regard, Jésus veut regarder. À travers tes mains, à travers tes paroles, nous devons de communiquer cette identité, cet amour, cette acceptation, toutes ces choses qu'on va développer ensemble. Vous voyez pourquoi ? C'est pas juste le fait qu'on se sente bien dans notre peau et tant pis pour les autres. Mais être porteur de la vie de Dieu pour les autres. Et ça ne pourra se faire que quand je suis bien dans mes godasses. Quand je me sens vraiment accepté, vraiment aimé, vraiment valorisé. Alors, j'aimerais encore aller un peu plus loin et reprendre certains points. On va voir dans tout ce chapitre, je veux d'abord qu'on parle de la nature et du plan de Dieu, on parlera un peu de notre nature, de nos besoins, comment Dieu veut y répondre et comment faire pour nous approprier, pour intégrer cela dans notre vie, pour que ça ne reste pas juste des éléments intellectuels, mais que cela façonne vraiment notre identité. Alors je voudrais que nous puissions prendre encore un peu de temps ensemble et je voudrais parler avec vous de la nature et du plan de Dieu par rapport à notre identité. Vous savez, les gens qui sont autour de nous, les gens qui n'ont aucune relation avec le Créateur, sont comme nous aussi. On marche sur la même terre, on a les mêmes besoins, ils sont aussi en quête d'amour, en quête de sécurité, en quête de raison d'être et d'épanouissement. Tout le monde cherche cela. Nous nous levons. L'enfant se lève avec cette question inconsciente. Est-ce que tu m'aimes ? Est-ce que tu m'aimes ? Tous ces besoins, Dieu les a placés en nous. Le souci, c'est que depuis que nous sommes sortis de sa présence, Jardin d'Éden, plus rien sur terre ne peut raisonnablement, suffisamment et complètement satisfaire ses aspirations les plus profondes. Nous le savons. Alors, en théorie, je crois que chaque chrétien reconnaît que Dieu seul, hein, c'est partie d'une confession de foi, Dieu seul peut combler nos besoins les plus importants. Or, je crois que si souvent nous ressemblons aux incroyants quant aux moyens que nous utilisons pour répondre à ces besoins. Nous cherchons dans les mêmes rayons qu'eux. Et ça, c'est dû souvent au fait qu'on a oublié une vérité tellement essentielle dans l'Écriture. Et je la rappelle, elle est tellement fondamentale. Si tu cherches la sécurité, si tu cherches l'amour, et nous la cherchons, une raison d'être, sécurité, si je cherche là comme une fin en soi, si c'est l'objectif de ma vie, sur terre je ne me trouverai jamais. La Bible dit que ça c'est la conséquence de la recherche de Dieu. C'est le surplus, c'est ce qui déborde de la conséquence de la recherche de Dieu. Quand je cherche Dieu, nous avons été faits pour cela. La Bible est très claire. Nous sommes faits pour chercher Dieu, pour connaître Dieu. La conséquence, le surplus, ce qui va découler de ma recherche de Dieu, c'est pour ça que Moïse disait, fais-moi, je veux te connaître, Seigneur. Ça doit être notre prière, fais-moi connaître tes voies. L'objectif premier est de connaître Dieu. Et quand je cherche Dieu, j'utilise pas mal de paraboles qui vont dans ce sens-là. Il faut qu'il ait le trésor dans le champ. Il faut que je le cherche, lui. Il est cette perle de grand prix. Il faut que je vende tout, dit cette parabole, pour que je le cherche, lui. Quand je le mets à la première place, tout le reste se met en place dans ma vie. Dans notre recherche de croissance, souvent nous oublions les vérités fondamentales. Et la première, liée à l'identité, pas seulement à l'identité, c'est que elle touche la nature de Dieu. Quand il est question de l'identité, je dois d'abord regarder à la nature de Dieu. Qui est-il ? C'est dans ce sol-là, ce sol sacré, que je dois vraiment enraciner ma vie d'ici. Quelle est la nature de Dieu ? C'est l'essence de Dieu, c'est la nature, c'est l'être de Dieu qui détermine toute autre chose. La Bible dit qu'au départ, il n'y avait rien, que Dieu. Et Dieu ne s'ennuyait pas, il était là dans une triunité parfaite, harmonieuse, glorieuse, tellement un amour total. Et je l'ai déjà dit plusieurs fois à la communauté, Dieu s'est proposé d'élargir cet espace à travers cette petite création qui me paraît gigantesque, mais pour Dieu qui est si petit, Dieu dit, élargissons, fils, je vais te donner une épouse, on va te donner un peuple d'hommes et de femmes qui vont croire en toi, qui vont avoir une relation tellement forte. Ce qui veut dire que notre existence, elle découle de la nature, de l'être de Dieu. Ce que nous sommes découle de l'être de Dieu, de la nature de Dieu. Dans l'Écriture, Dieu s'est fait connaître. Dieu nous révèle sa nature. La nature de sa personne, de sa puissance et de sa perfection. Au niveau de sa personne, Dieu nous dit pas mal de choses. Il est créateur, il est indépendant, il est infini, il est éternel. Au niveau de sa puissance, Dieu dira qu'il est omnipotent, il peut toutes choses, il est omniscient, il sait tout, il est omniprésent, il est partout. Au niveau de ses perfections, ce qu'on appelle en théologie les attributs de Dieu, Dieu révèle aussi sa nature. Il parlera de sa perfection de sainteté, de justice, de fidélité, d'amour et de bonté. J'ai besoin d'ancrer mon identité dans la connaissance de la personne de Dieu, et particulièrement ses attributs. Et plus particulièrement, j'ai besoin de fonder mon identité dans la connaissance de son amour et de sa bonté, pour que ma vie puisse se reposer sur ses attributs. Jean a cette affirmation, Dieu est amour. Dans sa nature, dans son être, c'est pas que Dieu peut éprouver de l'amour, que Dieu peut régulièrement agir avec amour. La nature même de Dieu est amour. Dans sa nature, Dieu est donateur d'amour. Depuis le commencement, Dieu ne fait que donner, même si l'homme si souvent a refusé les bienfaits de Dieu. L'essence même de Dieu, c'est son amour. L'essence de l'amour, c'est de donner, de rechercher le bien suprême de l'objet de cet amour. Le verset le plus connu de l'Écriture, c'est Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. C'est étroitement lié dans l'essence même de l'amour, il y a le don. Dieu a donné. Dans chapitre 5 d'Éphésiens, Paul va tirer des implications de la bonne nouvelle et il dira pour le couple, mari, aimez vos femmes comme Christ aime l'Église, il s'est donné lui-même. Si nous voulons comprendre ce que Dieu a fait pour nous, nous devons vraiment croire que tout ce qu'il fait, tout ce qu'il donne, procède de son amour. Quand Dieu agit, quand Dieu conçoit, quand Dieu intervient, c'est toujours dans son amour. Quand Dieu aime, il est lui-même. 1 Jean 4, 8 nous dit « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu parce que Dieu est amour. » Le grand projet de salut que l'Écriture nous dévoile, qui nous dépasse, qui dépasse notre temps, puisque la Bible dit « Avant la fondation du monde, Dieu avait conçu ce plan de salut. Dieu t'avait voulu. » Ce qui a motivé le plan de salut, c'est l'amour. Paul dira même que ce qui va conduire l'histoire éternelle avec Dieu, ça restera toujours l'amour. Dieu va vouloir démontrer pendant l'éternité au peuple racheté, à l'épouse de Jésus-Christ, aux anges, l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée en Jésus-Christ. Pendant l'éternité, nous allons pouvoir découvrir jusqu'au bout des temps la grandeur, l'infinie richesse de son amour. Dieu veut à jamais user de bonté envers nous et faire notre joie. Dieu agit toujours dans notre intérêt, toujours dans notre intérêt. Il a pris l'initiative de nous racheter par amour pour nous. Et il nous comble de ses bienfaits. C'est ça qu'il disait à la Samaritaine. Si tu savais qui je suis, si tu savais que cette eau vive va combler ta vie. Paul ouvre Éphésiens en disant « Le Père nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. » Dieu est à l'origine de tout ce qui est beau. Quand il crée chaque jour, Dieu s'exclame avec les anges. « Mais que c'est beau !» Mais que c'est beau, il conclut. Mais ça, c'est très bon. Ce que Dieu fait est parfait. Ses projets pour nous, même si nous vivons dans un monde qui était marqué par la déchéance, par la rébellion, on en parlera plus tard. Les projets de Dieu, ce que Dieu fait est toujours incroyable. Je sais que je le répète, mais c'est tellement important pour nous de ne pas mettre cela en doute, et particulièrement à l'heure de l'épreuve, particulièrement à l'heure où nous ne comprenons pas. Dieu imprime sa vie dans nos vies. Dieu imprime sa bonté. Vous savez, dans l'Écriture, pour décrire le type de relation que Dieu veut avec nous, plusieurs métaphores sont utilisées avec des éleveurs. Il y a l'image du berger et du mouton, les parents et les enfants, le mari et l'épouse. Les moutons peuvent s'égarer, les enfants peuvent se rebeller, l'un des conjoints, hélas, peut être infidèle. Et c'est cette rébellion-là vis-à-vis de Dieu et le rejet de son amour qui sont à l'origine du mal et de la souffrance dans le monde. Nous vivons dans un monde marqué par la souffrance, par la mort, par le mal, parce que nos parents et nous-mêmes, nous avons dit non à Dieu et nous en subissons encore aujourd'hui les conséquences. Nous vivons dans un environnement qui était faussé, abîmé par le péché. Mais la bonne nouvelle, Dieu ne s'est pas dit « Ok, je termine l'histoire, je roule le livre, c'est terminé. » Dieu savait ces choses. Mais parce que Dieu est amour, il a accepté notre choix, mais il avait de toute éternité conçu un plan de sauvetage, de salut en Jésus-Christ. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ. En Jésus-Christ, le projet initial reprend vie. Notre identité première est retrouvée, la réconciliation avec Dieu. Si nous voulons comprendre Dieu et sa bonté, nous devons nous tenir fermes à la révélation de sa nature. Et particulièrement face aux épreuves de la vie. Le psaume 145 dit « On proclamera le souvenir de ton immense bonté. On célébrera ta justice. L'Éternel fait grâce. Il est rempli de compassion. Il est lent à la colère. Il est plein de bonté. » Je crois vraiment que mieux nous saisissons l'amour de Dieu, mieux je saisis la bonté de Dieu, Et plus mon identité va se décoincer, s'apaiser. Dieu ne réalise pas ses projets à mon détriment. Dieu est avec moi, Dieu m'aime, dans un environnement faussé, abîmé, sur un bateau qui coule, oui, dans lequel il est intervenu pour nous sauver. Nous reposer en Dieu, reposer notre identité en lui, va nous donner tellement d'assurance. Mieux je saisis sa bonté, mieux je vais réaliser que sa volonté est bonne pour ma vie. Et que l'obéissance, qui dans l'Écriture n'est jamais un acte servile, mais qui est la manifestation, la conséquence de mon amour, je vais comprendre que réagir comme cela, cela m'épanouit, cela me réjouit, que la désobéissance, elle me frustre, elle m'attriste. Il y a plus de souffrance dans la désobéissance que dans la fidélité. Tout ce que Dieu me demande, tout ce que Dieu dit de moi, tout l'appel qu'il y a sur nos vies, tout cela c'est bon. Et quand Dieu me dit non, c'est parce que c'est nuisible. Ça c'est la santé de mon identité. Bien, peut-être encore juste un élément que je mentionne aujourd'hui avant de clôturer. Le plan de Dieu. Je vous ai parlé déjà, donc vous pouvez réécouter sur notre ancienne nature, notre nouvelle nature. Au départ, le projet de Dieu était vraiment parfait. On le voit dans Genèse 1, Genèse 2, une totale harmonie physique, morale, spirituelle, avec soi-même, avec l'autre, avec la nature, avec Dieu. Nous pouvions vivre dans grandir, croître dans une innocence, une perfection incroyable, inimaginable. Mais nous avons choisi. Nous pouvions soit rester dans une totale dépendance de Dieu, dans une totale innocence, dans une perfection, ou bien devenir notre propre référence. Ne plus vouloir de Dieu. Et c'est cette deuxième solution que l'on a choisie. Et cela a entraîné la séparation avec Dieu, ce que la Bible appelle la mort spirituelle. Cela a impacté ma nature, mon identité. On est devenu par nature pécheur. On est passé sous la domination du mal. Mon intelligence, mes émotions, mon corps ont été impactés par le mal. Et c'est pour cela que nous voyons aujourd'hui la mort, la maladie, la souffrance, la laideur. Et si Dieu n'était pas intervenu, pas d'espoir pour l'homme. On serait dans le chaos total. Mais Dieu a conçu, il a dit de toute éternité, un plan de sauvetage unique, pas par la religion. Pas par la religion. Et c'est ça qui est incroyable en Jésus. Quand l'ange vient trouver Marie et Joseph, ce petit enfant que l'Esprit allait déposer dans le corps de sa maman était celui qui allait sauver le monde, effacer nos péchés. Et pour tous ceux qui vont croire, qui mettent leur confiance, la Bible dit que l'ardoise est effacée. Mais plus que cela, ils sont réconciliés, ils deviennent enfants de Dieu, ils ont une nouvelle identité. Je voudrais juste terminer en énumérant rapidement les besoins que Dieu a placés en nous. Déjà dans la Genèse, nous voyons que nous sommes des êtres finis. Adam et Ève devaient manger. Il devait manger, il y avait toute une série de besoins physiques, nourriture, vêtements, abri, repos, protection. Et il n'y avait pas que ça, il y avait aussi des besoins psychologiques, des besoins spirituels que Dieu a créés pour nous rapprocher de lui, pour nous rapprocher les uns des autres, même pour nous rapprocher de lui. Toutes sortes de classifications. Pour la commodité, je les résume en trois angles, trois orientations. Dieu a créé le besoin d'amour et d'acceptation. Ce n'est pas mauvais, Dieu a créé ce besoin en nous. J'ai besoin d'être aimé. Dieu nous a créés comme cela, on n'est pas des arbres, des végétaux. J'éprouve le besoin de sécurité, le besoin d'être vraiment aimé, accepté de manière inconditionnelle. Dieu m'a créé comme cela. J'ai besoin d'être aimé de manière inconditionnelle par au moins une personne. Je serai toujours incomplet si je n'ai pas cette certitude, ce sentiment d'appartenir à quelqu'un, à quelques-uns, d'être aimé tel que je suis, parfaitement. Le problème, depuis que nous sommes sortis du jardin d'Éden, au mieux, nous sommes aimés imparfaitement par quelqu'un, et dans certains cas, on n'est pas aimé du tout. Combien souffrent de rejet, et donc d'insécurité, et on va chercher à être comblé autrement. Premier besoin que Dieu a créé. Deuxième, signifiance et identité. J'ai besoin de savoir que ma vie a du sens, que je suis important pour quelqu'un, pour quelque chose, que j'appartiens à une cause qui me transcende. J'ai besoin de savoir que ma vie a de la valeur, que ma vie a un sens. De nouveau, si je ne peux pas répondre à ces besoins, les expériences du rejet de ma personnalité vont provoquer une souffrance terrible. Troisième grand besoin, compétence et réussite. J'ai besoin de savoir que je suis compétent, performant, que j'ai des capacités. Pas pour écraser les autres, mais j'ai besoin d'accomplir une œuvre. Moïse dit, affermis l'ouvrage de nos mains. C'est en nous. On a besoin de s'investir dans des choses qui durent, qui ont du sens. J'ai besoin de savoir qu'il y a des choses que je fais et qui réussissent et qui marchent. J'ai besoin, en tant qu'être humain, de valider ma vie, ma valeur personnelle, dans des choses, dans des personnes, dans des activités qui vont durer. Le problème, c'est que si je m'adresse aux gens, aux choses et aux circonstances pour satisfaire ces besoins-là, ça sera toujours trop court, toujours trop court. Dieu a placé ces choses en nous, nous a permis de fonctionner ainsi pour que nous trouvions en lui l'amour, l'identité, la valeur, la sécurité. Tout ici-bas sera toujours trop court. Si je dépends de quelqu'un, si je dépends de bien, d'activité pour me dire qui je suis, pour me donner de la valeur, pour me dire que voilà, je fais des choses qui donnent du sens à ma vie, ça sera toujours trop court. L'Ecclésiaste dit, Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité. Dieu a mis une aspiration que seul lui peut satisfaire. Il est le seul à pouvoir combler nos vies. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas se soucier de son apparence, de nos biens et de nos réalisations. Pas du tout. En tant qu'ambassadeur de Jésus-Christ, nous pouvons faire des choses et nous devons viser vraiment l'excellence. Mais si ma joie, si ma paix dépend de mon aspect, de ce que je possède, de ce que je réalise, c'est comme si je dépendais des créatures plutôt que du Créateur. On aura l'occasion de voir après Pâques que Dieu en Jésus-Christ va vraiment combler tous ses besoins. Et qu'en lui, je vais pouvoir être aimé, je vais pouvoir donner un vrai sens à mon existence et je vais pouvoir accomplir des choses qui vont durer, non pas simplement un petit temps, mais pour l'éternité. On aura l'occasion aussi de voir comment s'approprier tout ce que Dieu dit de nous. J'aimerais donc conclure ce matin en nous lançant le défi de quitter l'immaturité, de quitter, Paul dit, quand j'étais enfant, je raisonnais comme un enfant. On peut être encore adolescent, mais je ne vais pas être adolescent tout le temps. Je dois, au niveau de mes capacités relationnelles, tellement grandir. Il faut que je sois un être tellement proche de Dieu. Jésus disait, mes brebis entendent ma voix. Que ce confinement nous aide à entendre la voix de Dieu. Que la relation que tu as avec toi-même, c'est lié à l'identité, soit juste. Il faut que je puisse m'aimer correctement. Pas de trop, ni trop peu. Il faut que j'apprenne à me voir comme Dieu me voit. C'est ça le véritable amour de soi, m'aimer comme Dieu me voit. Tu es le disciple que Jésus aimait. Il faut aussi que dans mes relations avec les autres, je devienne tellement compétent. Je sois un homme capable de pardonner, d'aimer et de servir. Il faut que je quitte l'enfance. J'espère que les membres de nos familles avec qui nous sommes confinés vont sortir de ce moment en disant « Mais quelle personne extraordinaire !» Oh, pas parfait. Mais c'était bon de vivre. Que c'était bon de vivre cela avec lui, avec elle. Souvent, je dis à Laurence, même si les enfants manquent, même si l'église manque, si les activités manquent, je suis bien avec toi. Oh, c'est bon, ce matin je partais, je dis, oh, vivement, après on est ensemble. Vous voyez, comme hier, comme demain, mais c'est bon de se retrouver. C'est bon de se retrouver. Parce que on doit devenir des experts relationnels. On courait après Jésus. On avait envie de le toucher. Bon, certains n'étaient pas d'accord avec ce qu'il disait, pas de souci. Mais il avait une telle capacité relationnelle. Il faut qu'on grandisse. Il faut qu'on grandisse. Quand j'étais enfant, je pensais comme un enfant. Ma relation avec Dieu était de l'ordre, de l'enfantillage. Je faisais que demander. Dieu acceptait. Mais maintenant, je peux développer une telle intimité. Je peux tellement être profond et intime que ce qui va le plus m'intéresser, c'est la gloire de mon Père. C'est la gloire de mon Père. Jean 15. Vous allez demander ce que vous voulez. Et mon Père va répondre. Quelle maturité dans la relation. Il faut que je grandisse aussi dans les valeurs du ciel. Demain, après-demain, on est conscient. Le monde est secoué. Le monde est secoué parce que nous savons que Jésus revient. Peut-être pas demain, on ne connaît pas le jour et l'heure, mais nous savons qu'au ciel, tout est prêt. Peut-être dans quelques années. Il ne faudrait pas qu'on arrive au ciel avec un décalage incroyable de notre style de vie. Pierre entrevoit cette possibilité et dit, mais afin, Pierre et Jean, que la porte nous soit largement ouverte. Sous-entendu qu'on peut ouvrir une porte timidement et pas très joyeusement. Jean dit, afin que, quand il revient, nous n'ayons pas honte. N'aie pas peur d'intégrer les valeurs d'en haut dans ta vie, les valeurs éternelles. Ne laisse pas la pression du monde te faire croire que c'est en fonction de ta beauté, de ta richesse que tu es quelqu'un. On va laisser ça pour TF1. Laissons les valeurs d'en haut, les valeurs éternelles s'installer en nous. On doit devenir aussi des experts dans les disciplines spirituelles. Paul utilisait l'image des Jeux Olympiques. Mais regardez les athlètes. Ils s'imposent tellement de disciplines. Il y a des athlètes qui sont... Leur vie s'écroule parce que les JO sont portés d'un an. Il dit, mais tirez profit de cet exemple. Vous courez. Courez la vie chrétienne pour remporter le prix. Il dit, oui, je m'exerce. Je m'impose toute une série de disciplines. Non pas pour se flageller, pas du tout. Mais pour connaître le Christ. Pour aimer le Christ. Pour servir le Christ. Pour encourager cette vie en nous. Ça, c'est notre responsabilité. Dieu fera toujours sa part. Dieu fera en sorte que je puisse continuer. Il va donner cette vie nouvelle. Les forces, Dieu le fera. Mais à moi de mettre en œuvre ce salut. Devenons vraiment matures, pas des enfants qui, de temps en temps, pensent aux habitudes spirituelles, mais des hommes et des femmes habitués à aller dans les déserts, dans la prière, dans la proximité avec Dieu, dans le souci les uns des autres, dans la pratique des dons spirituels, des fruits, toutes ces choses qu'on a développées ensemble. Et puis, nous sommes en train de devenir matures dans notre identité. Se voir comme Dieu nous voit. Combien de vies ne sont pas paralysées? Combien de ministères? Combien de dons? Comme cet homme dans la parabole qui reçoit un grand potentiel et qui a peur de les faire fructifier et il les cache. Combien parfois l'Église a peur d'être l'Église, se confine à l'intérieur et il faut que ces moments nous changent pour que nous soyons espoir pour le monde. Mais pour cela, j'ai besoin de savoir qui je suis, de savoir le potentiel que le Christ a placé en moi, ce trésor. Hein, Paul dit, nous portons ce trésor dans des vases d'argile, nous-mêmes. Nous ne sommes sur terre pas grand-chose, c'est vrai. Mais il est là en nous. Il y a une part précieuse. Notre vie est cachée en lui. Mais elle est appelée à se manifester. Cette identité, cette suffisance, cette complétude, cette perfection en Christ, elle doit se manifester. Oh papa, près des éclats. Mais par tout ce que l'Esprit va nous amener à accomplir en son nom. C'est ça les fruits. Naturellement, la sève va produire du raisin. Naturellement, là où tu vas aller, tu vas faire du bien, tu vas dire du bien, tu vas rayonner du bien. Tu vas oser prier pour le rétablissement, la croissance et la maturité. Que le Seigneur nous bénisse et nous fortifie. Prions les uns pour les autres, encourageons-nous, téléphonons-nous, écrivons-nous. Nous aimerions continuer à nous fixer rendez-vous, le plus souvent possible, mais le mardi soir, dès 20h dans la prière, Eric va nous parler d'un moyen pour que nous puissions peut-être vivre ces temps de prière tous ensemble en nous entendant les uns les autres. Dimanche prochain, il y aura de nouveau un enregistrement, mais on aimerait dès 10h avoir un temps de prière, il y a une application particulière qu'il va nous proposer. Que le Seigneur vous bénisse les uns les autres. Je sais qu'elle n'aimera pas que je le dise, mais prions aussi pour Sarah Coulon, qui est malade pour l'instant, qui va mieux. Portons-la dans la prière, elle a besoin de nous. Corinne va mieux, normalement, elle recommence à travailler aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse, vous fortifie, que l'offre de Jésus, qui n'est pas juste le pardon, mais une offre globale, ses mains qui se posent, ses mains de bénédiction, partout où il allait, il bénissait. Il te bénit. Sa présence te bénit. Tu n'es pas tout seul. Tu n'es pas tout seul. Il est avec toi. Bon, j'arrête parce que sinon, ça va être plus long. Que Seigneur vraiment vous bénisse et vous fortifie. Cède la parole quelques instants à Eric. Tout mon amour, toute mon affection et je vous serre vraiment dans mes bras. À bientôt, mes amis.